Chapitre 12. Il fut impossible d'obtenir d'elle autre chose. J'obéis à ma conscience. Madame Belloc reprit ses accusations contre le corsaire, les développa, les précisa. Rien n'y fit, Marichette persista dans sa réponse. Je ne peux pas le quitter. Plus d'une fois, Madame Belloc fut sur le point de se laisser entraîner par l'exaspération et d'abandonner cette folle, mais toujours, elle put se modérer à temps et remplacer par des expansions de tendresse les paroles de colère qui venaient jusque sur ses lèvres. Lorsqu'elle était à bout d'arguments ou de patience, elle adressait un coup d'œil énergique à son mari pour lui demander son concours. Mais celui-ci ne trouvait que quelques mots insignifiants et encore les disait-il mollement, comme à regret. À bout de parole, Madame Belloc voulut essayer d'autres moyens et il fallut que Marichette montât voir la chambre qu'elle occuperait à Criquefleur quand elle viendrait se réfugier chez son cousin Sylvain. Car elle y viendrait un jour, cela ne faisait pas de doute. L'essentiel était seulement qu'elle n'y vînt pas trop tard pour sa réputation ou pour son honneur. Cette chambre était la plus belle de la maison, celle qu'on donnait aux amis, meublée confortablement et avec un certain goût. D'une des fenêtres, on apercevait la plage et la haute mer, ce qui était bien agréable pour rêver, fit observer Madame Belloc. N'a-t-on pas besoin de rêver quand on est jeune ? Belloc suivait docilement, ne disant qu'un mot, toujours le même. Ça nous ferait plaisir. La grande préoccupation de Madame Belloc dans la vie ordinaire était la toilette, la sienne comme celle des autres, et il avait fallu le bouleversement dans lequel avait jeté l'arrivée de Marichette pour ne pas faire attention à la façon dont sa cousine était habillée. Mais en se promenant dans la maison, cette robe noire trop étroite et trop courte l'avait frappée. Elle l'avait alors regardée de plus près. Ses coudes blanchis lui avaient sauté aux yeux et aussi ses souliers usés jusqu'à l'empeigne. Elle connaissait trop bien la position de sa belle-sœur pour croire que c'était par négligence que Marichette s'habillait ainsi, c'était par misère. Cette remarque lui suggéra un nouveau moyen d'action. « Est-ce que M. Belloc vous a commandé des vêtements de deuil ? » demanda-t-elle. « Non, » répondit Marichette, toute honteuse de l'examen qu'elle venait de subir. Il n'en a pas commandé et il n'en commandera pas, il est trop avare pour cela. Mais nous vous en commanderons, car nous ne pouvons pas vous laisser dans cet état de misère, n'est-ce pas, Sylvain ? Certainement, tu as raison, dit Belloc, heureux de voir sa femme venir en aide à cette pauvre enfant. Marichette eut voulu refuser, mais comment sans les blesser ? Elle se laissa conduire dans un magasin de nouveautés où Madame Belloc lui commanda une robe de mérinos noir. Ma cousine a quitté Paris aussitôt après la mort de sa mère, dit-elle pour excuser la misère de la pauvre petite robe trop courte, et elle n'a pas eu le temps de commander son deuil. Puis elle expliqua que sa cousine était en ce moment chez son cousin à Saint-Maclou et que ce serait chez M. Belloc aîné qu'on devrait aller essayer la robe. Elle avait hésité si elle ferait venir Marichette à Criquefleur pour cet essai, mais pensant que cela exaspérerait le corsaire de voir entrer chez lui une couturière payée par elle, elle avait combiné cet essayage à Saint-Maclou. Après la robe de mérinos, ce fut un châle qu'elle acheta, puis un fichu, et cela malgré Marichette qui se défendait. « Il vous faut aussi ce fichu, vous ne connaissez pas notre pays !» Attendez un coup de vent du nord-ouest et vous verrez quel froid nous avons. Je veux qu'alors, en vous enveloppant dans votre fichu, vous pensiez à votre cousine. Ne vous inquiétez pas de la grosseur du paquet, vous n'aurez pas à le porter, car je vous ferai reconduire en voiture. » Cette fois encore, Marichette voulut refuser, autant pour ne pas fâcher son cousin Simon, qui pouvait trouver cela mauvais, qu'afin de pouvoir amener Psyche chez Madame Moreau. Mais sa cousine ne voulut rien entendre. Elle aussi pensait que ce retour pourrait blesser le corsaire, et ce n'était même que dans cette espérance qu'elle avait eu l'idée de proposer une voiture à sa cousine. À mesure que le moment du départ approcha, Madame Belloc redoubla d'amabilité. C'était pour elle un véritable chagrin que cette séparation, et aussi une angoisse. Pouvait-elle voir d'un cœur calme une aussi charmante fille s'engouffrer dans cet enfer où le corsaire était le diable ? Comment ne tremblerait-elle pas, elle qui ne connaissait ce diable que trop bien ? Enfin, la voiture vint se ranger devant la porte du bureau. C'était un de ces paniers que Belloquet avait mis en circulation l'année précédente et Madame Belloc avait eu soin de commander le plus coquet, celui dont le tendelet était le plus frais, de même qu'elle avait commandé ses meilleurs chevaux et son cocher le plus décoratif. Il fallait vexer le corsaire. « Vous conduirez, mademoiselle, jusqu'à la porte de M. Belloc aîné, » dit-elle au cocher. Le moment des adieux était arrivé. Belloquet embrassa Marichette affectueusement. Madame Belloc la pressa sur son cœur à plusieurs reprises, avec émotion. « Est-elle charmante, cette enfant ? Est-elle jolie ?» Elle n'eut aussi que des caresses pour Psyte qu'elle installa elle-même sur la banquette à côté du paquet qui contenait le châle et le fichu. Tant que la voiture fut en vue, elle agita son mouchoir, mais aussitôt qu'elle disparut au tournant de la côte, elle mit la main sur le bras de son mari. « Viens dans le bureau, » dit-elle. Et tout de suite, elle envoya ses enfants jouer dans la cour. « As-tu jamais vu une gueuse pareille ?» s'écria-t-elle furieusement. Il fut abasourdi. « Quoi donc ? » murmura-t-il. « Elle a son plan, la voleuse. Si elle ne l'a pas inventé, sa mère le lui a soufflé. »« Mais quoi ? Es-tu imbécile ?» Elle était dans un tel état d'exaspération qu'il jugea prudent de ne pas répondre. « C'est ta faute !» s'écria-t-elle. « Si, comme je te l'avais recommandé, tu m'avais appuyé, tout cela ne serait pas arrivé. Mais non, j'ai vu le moment où tu allais prendre la défense de ton cousin. Je suis sûre que tu l'aimes toujours, ce gredin, et que tu l'admires. Tu n'as donc pas de sang dans les veines ? Un homme qui te doit tout. Car enfin, que serait-il sans toi ? Si tu ne lui avais pas apporté ton instruction et ton intelligence, il n'aurait pas été loin. Quand tu lui as demandé le juste prix de ton travail, il t'a traité comme un commis, toi qui l'as fait ce qu'il est. Et malgré cela, tu es resté son petit cousin, le contemplant moitié avec admiration, moitié avec peur. C'est lâche, c'est honteux, tu n'es pas un homme. » Belloquet courbait les épaules, ne trouvant rien à répondre, ce qu'elle disait là n'était que trop vrai. Il n'était que le petit cousin de son aîné, l'admirant et le craignant tout à la fois, n'attendant qu'un seul mot de lui pour se jeter dans ses bras. Ce qu'il aurait fait depuis longtemps déjà, si sa femme n'avait pas été là, car il avait encore plus peur d'elle que de lui. Elle continua. « Heureusement que je suis là, et je ne laisserai pas cette gueuse dépouiller mes enfants de ce qui leur appartient. » Venant à son mari et le secouant par le bras, « Tu ne vois donc pas qu'elle veut s'établir chez lui pour nous voler la fortune de nos enfants ? Tu ne vois donc rien ?»« Ma foi, non. » dit-il timidement, « je ne vois pas ça. » Pourquoi tient-elle tant à rester chez le corsaire, où elle commencera par être malheureuse comme une esclave, au lieu de venir chez nous ? Cela, je n'en sais rien. Pour s'emparer de lui, petit à petit, l'enjôler avec ses grands yeux noirs, le dominer et finalement se faire faire un testament. À son âge, si ce n'est pas elle qui a combiné ce plan, c'est sa mère, et avec ses manières de parisienne, elle serait bien capable de l'exécuter si je n'étais pas là. Maintenant, autre question. Pourquoi ton cousin, qui est dur comme pierre, qui n'a pas de cœur au ventre, qui te laisserait crever de froid ou de faim, reçoit-il cette dévergondée ? Le fait est que c'est extraordinaire. Dis que cela serait extraordinaire si elle n'avait pas ses yeux noirs et ses cheveux blonds, son air d'innocence et de malice, c'est là ce qui a touché ce vieux coquin. C'est une enfant. Es-tu simple, mon pauvre Sylvain ? Et as-tu peu de mémoire ? Est-ce la première enfant que ton cousin met à mal ? Ne dis pas de pareilles choses. Avec lui, tout est possible, et c'est justement pour cela que nous devons prendre nos précautions. J'ai tout fait pour qu'elle ne reste pas chez lui, mais je ne me flatte pas de réussir. Maintenant, il faut que, de ton côté, tu agisses. Et que veux-tu que je fasse ? Que tu appelles la loi à notre aide. Ta cousine est mineure, elle est orpheline, le corsaire et toi, vous êtes ses seuls parents, c'est donc à vous qu'il appartient de vous charger d'elle. L'un de vous doit être son tuteur, l'autre son subrogé tuteur. Tu vas donc dès demain aller trouver le juge de paix et demander la convocation d'un conseil de famille qui, puisque vous n'êtes que deux parents, sera complété par des amis. Tu tâcheras bien entendu qu'on choisisse les tiens. Mais si on préférait ceux de ton cousin, tout ne serait pas perdu pour cela. Ce sera ce conseil de famille qui décidera à qui Marichette doit être confiée et je ne peux pas croire qu'entre vous deux, toi ayant un intérieur honnête, marié, père de famille, et lui ayant la réputation d'être le plus grand libertin du pays, je ne peux pas croire que ce ne soit pas à nous que la petite soit remise. Et alors, l'héritage du corsaire sera sauvé.